Et nous écoutons maintenant quelques passages des Écritures sur lesquels ce matin portera la prédication. C'est d'abord dans l'évangile de Matthieu que nous rappelons au chapitre 3 l'œuvre du baptiseur. En ces jours-là parut Jean, le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée, « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit, « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir, produisez donc un fruit digne du changement radical. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, mais celui qui vient derrière moi est plus grand, plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il nettoiera son aire, il recueillera son blé dans la grange et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Et puis nous écoutons maintenant, au chapitre 18 de ce même évangile de Matthieu, cet épisode à partir du premier verset. À ce moment, les disciples vinrent demander à Jésus, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit « Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi-même qui l'accueille. » Nous écoutons encore ce bref passage dans l'épître de Jean, de cet entretien de Jésus avec un nommé Nicodème. Nicodème dit à Jésus, « Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu. » Jésus répondit, « Je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Et puis encore ce passage que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Que dirons-nous ? Nous sommes morts pour le péché. Comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que vous tous, nous tous, qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et c'est maintenant le cantique 204 que nous chanterons la première et la deuxième strophe. Nous prions. Seigneur, plonge-nous maintenant dans ces eaux profondes qu'est ta parole. Qu'elle nous régénère, nous lave de nos passés inutiles, de nos pensées vaines et mette un terme. À nos inquiétudes, en nous donnant de nous vider de nous-mêmes, de tout ce qui nous encombres pour que tu puisses former en nous une foi qui ouvre des routes inédites, qui inspire des paroles et des actes nouveaux et donne sens à chaque instant de notre vie. Frères et sœurs, ce ne sont que quelques gouttes d'eau sur les fronts de ces deux enfants qui a fait ressurgir ce matin le geste ancestral de toutes les ablutions, de tous les rites de purification que les hommes se sont toujours transmis pour se rapprocher, pour se réconcilier avec ce Dieu improbable, parfois menaçant, lointain. C'était cette eau où peut naître toute vie, parce qu'elle trouve son milieu, parce que deux molécules d'hydrogène une molécule d'oxygène ont permis l'inexplicable, l'indicible. Alors cette eau ne pouvait que rapprocher du divin par ce retour aux origines. Alors dans ce concours un peu vagabond de toutes les religions du Moyen-Orient, Israël aussi a fait de cette eau une propre expression de sa foi. Mais paraît Jean, paraît ce cousin de Jésus, qui va rester dans les mémoires le baptiseur, et qui lui innove, qui fait craquer les rituels en plongeant des hommes, sans doute avec des femmes, dans les eaux tourbillonnantes du Jourdain, et qui, plus fort encore, voyant venir à lui Jésus, n'hésite pas à se saborder avec son baptême d'eau, annonçant ces temps nouveaux, où ce ne sera alors plus avec de l'eau, mais avec du feu, que l'homme sera baptisé. Et pourtant, c'est ce baptême d'eau auquel Jésus a voulu lui-même se soumettre, qui restera le geste inaugural pour toutes les générations chrétiennes. Alors l'occasion nous est donnée ce matin de considérer ces passages des évangiles que nous venons de relire, d'abord avec Jean le baptiseur et ensuite avec Jésus. Avec Jean. Ainsi s'exprime-t-il, « Moi, je vous baptise dans l'eau, pour un changement radical. La traduction qui a été faite de ce passage, ce n'est pas cette traduction-là. Celle qui a bercé nos oreilles dans notre enfance, sans doute peut-être encore aujourd'hui, et pas seulement celle de ma génération, mais celle d'autres générations ultérieures, nous a habitués à entendre les mots de repentance et de conversion pour ce baptême. Ce qui donne à penser que l'on quitte par décision personnelle, pour un adulte, puisque ce ne peut être que le cas dans le temps du Nouveau Testament, pour un adulte, de quitter un état d'incroyance pour adhérer à la foi chrétienne et intégrer alors la communauté de foi en Jésus-Christ. Cette conversion d'ordre spirituel au départ exige bien entendu de quitter une vie antérieure dite de péché pour entrer dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et en tout cela, il n'y a rien de faux. Le discours est sans faille. Ainsi, l'alliance de Dieu avec les hommes se poursuit. Et on peut passer d'un testament à l'autre. Mais n'a-t-on pas oublié que cet autre, c'est un nouveau? N'a-t-on pas, dans cette traduction, émoussé, adouci le vocabulaire que volontairement Jean employait, et qui est ce retournement que le baptême suppose, ce volte-face qu'il constitue, et ce déplacement sans retour qui fait qu'on ne se retrouvera plus jamais au même endroit qu'au départ. Alors la nouvelle traduction de la Bible Second, cette vénérable traduction protestante qui était entre toutes nos mains et qui l'est toujours, dont on connaît même souvent par cœur les tournures et les fins de versets, dans sa nouvelle version, elle a fait peau neuve, bénéficiant du travail incessant de tous les chercheurs, de tous les linguistes et autres, et elle n'a pas hésité, alors, à traduire directement ce mot en grec de « métanoïa » par « retournement radical » et non plus par « conversion ». Et même si c'est le même sens, étymologiquement parlant, cette traduction ancienne appartient à un vocabulaire pieux. Comme il s'agit encore et toujours d'un déplacement, il faut retourner à l'opposé. Et alors, l'accent va être mis sur le fait d'avoir quitté sa place, de s'être converti au sens fort et au sens radical, de s'être retourné, d'avoir retourné toute sa personne, en sorte qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Et que c'est sans retour entre cet autrefois et cet aujourd'hui. C'est bien d'une repentance, mais dans sa radicalité, et pas seulement un repentir moral, dans le sens où il peut encore avoir quelque chose de comptable pour établir de bons rapports avec Dieu. Mais le baptême est plus encore. Il est une tension face à un choix qui ne peut plus être remis en jeu. Je ne peux plus dissocier mes comportements isolés de cette décision radicale. On pourrait dire que c'est un baptême existentiel. Alors, cela explique que Jean, qui connaissait son public, l'invectivait en le traitant de tous les noms, et en particulier de vipère. Peut-être que par bienséance, l'Écriture n'a pas retenu les autres. En vue d'une repentance qui ne devait être autre qu'un retournement radical. Mais ce baptiseur va quitter la scène publique. Alors qu'en sera-t-il de celui dont il prédit qu'il vient non plus avec de l'eau, mais avec du feu pour détruire? Alors voici donc maintenant Jésus. Va-t-il répondre à ce portrait un peu foudroyant que Jean a fait de lui? Qu'en va-t-il être de cette violence d'un changement radical? Alors, c'est à partir d'une question qui apparaît bien entendu totalement déplacé de la part d'un de ses disciples, qui dans le royaume de Dieu sera le plus grand, sera le premier, à qui on décernera le prix et qui montera sur le podium. Jésus ne relève pas tout de suite la question comme on l'attendait. Il ne rembarre, pour parler vulgairement, pas cette indiscrétion. Il ne rabroue pas son auteur, parce qu'il a bien mieux à faire. Et au lieu de le remettre à sa place, il va exploiter cette idée de grandeur, vue comme une préséance d'honneur dans l'esprit des siens, mais en l'inversant, en le retournant, en lui faisant faire cette conversion et ce demi-tour. La question, eh bien, posons-la, semble dire Jésus. Elle va servir à comprendre. Et au lieu de leur dire qu'ils sont égaux, ce qu'on pourrait attendre, mais l'égalité, c'est parfait pour la République, mais c'est parfaitement insuffisant pour Jésus. Il a mieux à dire que de parler d'égalité et de cette banale évidence. Alors, le plus grand, eh bien, c'est celui qui est sur mes genoux. Il a fait appel à ses disciples pour lui amener un de ses nombreux enfants qui sont dans les bras de leur mère, au milieu de cette foule qui s'est assemblée autour de lui. Alors arrive le moment attendu où Jésus prend la parole et il reprend ce changement radical du précurseur. Il revient. Il ressort, non pas avec la métanoïa, mais avec ce verbe strepso en grec, qui signifie lui aussi un changement, une révolution. Et le demi-tour revient, mais les invectives en moins, elles ont disparu. Elles ont disparu comme l'eau et comme le feu. C'est l'essentiel que Jésus va mettre en place. Alors, à l'aide de cet enfant, qui devient une parabole vivante, il nous fait sortir de notre histoire, comme d'une préhistoire, pour nous placer devant la nouveauté qui nous attend et qui est radicale. Ce que Nicodème n'avait pas compris, c'est une naissance qui ne dépend plus de nous, qui n'est pas l'œuvre de l'homme, qui n'est pas l'œuvre de notre chair, mais l'œuvre du Christ en nous. À quoi donc servirez tous ces enseignements, tous ces sermons sur la montagne, toutes ces paroles et tous ces actes de Jésus pour redonner la vie pendant 3 années intenses de ministère. Si le sens n'en était pas de mettre en nous ce qu'il n'y avait pas avant et de faire de nous ce que nous n'étions pas avant, mais ce que nous devenons. Comme le dit d'une autre manière l'apôtre Paul, ce que nous devenons, nous ne le savons pas encore. Ce que nous devenons, c'est le Christ caché en nous. C'est ce que nous ignorons. C'est que nous sommes morts avec lui sur la croix. Et qu'alors, nous sommes vivants avec lui. C'est tout un travail, c'est tout un tissage qui se fait en nous par le Christ. C'est un devenir et c'est une construction. Alors, l'enfant qui est là va servir de signe. Et pas du tout, détrompons-nous, parce qu'il est innocent, parce qu'il n'a rien fait de mal et que moralement il est pur, ni non plus parce qu'il est sans défense, doux, peut-être peureux, peut-être qu'il cherche avec ses yeux sa mère pour le rassurer. En somme, parce qu'il est dans le sens non négatif du mot infantile. Pas du tout. C'est seulement parce qu'il commence sa vie qu'il n'y a encore rien d'écrit sur son avenir. Parce que sa route est libre, parce que la page est blanche et que ce qui l'attend peut être illimité par le don de Dieu. Car c'est une nouvelle hérédité que nous offre Jésus. Que seul Dieu peut nous donner à travers lui. Ce n'est pas une survie. Un encore toujours plus, c'est une autre vie qui, elle, est neuve. Alors, Nicodème, il ne s'agit pas d'un recommencement, mais d'un commencement. On ne refera pas un nouveau cycle, on va en sortir. Ce n'est pas une survie non plus, un prolongement, une recherche éperdue d'augmentation de l'humain pour frôler les limites. C'est un départ de vie, celui que seul Dieu donne et que rien n'arrête. Alors, à quoi pourrait encore servir la violence johannique dans la bouche de Jésus? Il dit seulement « Ta foi t'a sauvé ». En toi, Dieu dépose un germe nouveau qui peut se développer en vie éternelle. Et alors on fait retour à ce changement radical. Mais celui-là ne dépend pas d'une menace, mais d'une grâce. Il n'est plus suspendu à des actes justes, mais à la foi. À la question posée par les disciples, qui donc est le plus grand ? La réponse tombe de soi-même. C'est celui qui n'a pas encore eu l'occasion de tomber parce qu'il ne sait pas encore marcher comme cet enfant. Y a-t-il parmi vous tous ces gens qui ne savent pas marcher ? Dit Jésus implicitement. Tous ces gens qui les seuls peuvent être aptes à entrer dans le royaume de Dieu. Qui peut rentrer ? Tous ces premiers que sont ces estropiés, ces boiteux, ces aveugles, ces pauvres, ces gens qui pleurent, ces persécutés pour la justice, et pourquoi pas toute cette humanité qui attend la délivrance. Alors, que peut-il encore rester à faire ? À faire peut-être pas grand-chose, puisque tout a été accompli par cet amour démesuré de Dieu dans le Christ. Ce qu'il y a à faire, c'est peut-être déjà de consentir à être ses invités du royaume de Dieu. En ayant faim, en ayant soif de cette justice dont le monde est privé et que le monde ne peut pas donner parce qu'il ne l'a pas. Et il faut bien ajouter, et c'est important, que ce n'est pas l'Église qui est dans ses murs, qui dispose de toutes ces richesses, de toute cette transformation et de toutes ces réserves de nouveautés. Ce que le Christ a donné, c'est jeté au milieu du monde, c'est jeté partout. C'est peut-être parfois piétiné, inconnu la plupart du temps, mais ce ne sera jamais une possession. Nous n'en détenons rien. Les mains sont toujours ouvertes. Le royaume de Dieu, eh bien, il peut être dehors, là où on ne sait pas qu'il est. Il trouve sa source dans ce qui ne se prévoit pas, dans ce qui échappe au préétabli et donne une possibilité d'exister qui n'avait pas été encore envisagée jusque-là, selon les mots du professeur Elian Cuvillier. Ce que l'infinité des paraboles de Jésus veulent décrire, c'est cette vie qui excède, qui dépasse et fait exploser le cadre de tous les possibles. Elle peut ne pas dire son identité. Tel est le royaume de Dieu. Ce royaume, au sujet duquel, un jour, Jésus a déclaré d'une façon étonnante, ce royaume de Dieu qui peut aussi appartenir aux violents, parce que eux, au moins, ils enforcent la porte pour y entrer. Amen.